Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yann Boucherie, Bernard Poirette.
Bonjour Yann.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Donc ce journal de 7h avec vous Yann et avec sans doute aussi le président Emmanuel Macron qui inaugure ce matin le salon de l'agriculture.
Et nous irons porte de Versailles dans un instant. Dans ce journal également, ce nouvel épisode dans l'affaire Cesnec. Des fouilles auront lieu aujourd'hui dans l'ancienne maison familiale en Bretagne pour tenter de retrouver le corps de Pierre Kemener. À l'étranger, toujours pas de trêve en Syrie. Le vote attendu à l'ONU a été reporté à cet après-midi. C'est le dernier film de Daddy Boone en partenariat avec RTL. La petite famille était projetée en avant-première hier soir à Calais et nous y étions. Et puis les sports et le rugby. Enfin, une victoire pour le 15 de France, tombeur de l'Italie 34-17. En football, 0-0 hier soir entre Strasbourg et Montpellier. Et puis au JO d'hiver, frustrante 4e place de la France en ski alpin par équipe et en snowboard.
Le succès du Salon de l'agriculture ne se dément pas d'année en année. Plus de 600 000 visiteurs se sont rendus porte de Versailles l'an passé.
Et une forte affluence est encore prévue pour cette édition 2018. Comme le veut la tradition, l'inauguration avant l'ouverture au public est effectuée par le président de la République. Dominique Tenza, bonjour.
Bonjour.
Alors pour sa première visite en tant que chef de l'État, Emmanuel Macron est attendu dans un petit moment. Il est attendu au tournant aussi par les agriculteurs et il sera pendant 12 heures à leur côté.
Oui, et ce serait un record, hein, 12 heures sur le salon, c'est du jamais vu pour un président en exercice. Vous le disiez, première visite en tant que chef de l'État pour Emmanuel Macron. Alors le salon, on le sait, c'est toujours un rendez-vous risqué pour un responsable politique en général et pour un président de la République en particulier. La foule, les discussions de groupe, les prises à partie. L'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, Emmanuel Macron, il était alors candidat, avait reçu un œuf sur la tête lancé par un jeune apprenti en colère. Son service d'ordre, très impressionnant, les a vus passer, je peux vous le dire, espère cette fois éviter l'incident. Plusieurs costumes de rechange ont été prévus au cas où, mais c'est aussi ça, le salon de l'agriculture, c'est souvent imprévisible. Le chef de l'État devrait arriver dans quelques minutes, 7h15 arrivée prévue. Petit déjeuner avec les organisations syndicales pour commencer, histoire de balayer d'emblée l'ensemble des revendications. Et puis, ce sera le début de sa journée marathon. Éleveur de bœuf, de porc, producteur de lait, de fruits, de légumes, céréaliers, mais aussi viticulteur, brasseur, bref, le président veut voir tout le monde, montrer qu'il s'intéresse à tous les secteurs, peut-être aussi tenter de rompre avec cette image de président des villes qui lui colle à la peau. Le chef de l'État aura certainement à cœur de faire mentir ce sondage qui nous révélait hier que 2/3 des Français ne lui faisaient pas confiance pour défendre le monde agricole.
Merci beaucoup Dominique Tenza. Les animaux, eux, sont en place dans les enclos depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, et ils sont bichonnés par leurs propriétaires. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aux côtés des vaches qui ont le droit à la douche, mais oui, pour se faire belle avant leur concours.
Mais oui, traitement de faveur, elles se font belles avant l'ouverture au public tout à l'heure à 9h. Depuis 5h, des dizaines et des dizaines de vaches, de taureaux se succèdent ici. Et là, je me trouve devant un taureau charolais de 4 ans, il s'appelle Jingle, et je suis avec son éleveur Pierre-Maxime. Bonjour Pierre-Maxime.
Bonjour.
Alors comment ça se passe, la douche d'un taureau? En plus, il a une robe blanche, c'est assez compliqué. Hein.
Eh ben, on le mouille déjà, on fait tremper, puis après, ben, on prend une brosse, de l'huile de coude, et puis un peu de savon, et puis du shampoing. Et on frotte.
Il faut frotter assez dur pour que ce soit bien propre.
Et ben, plus il a été lavé avant, moins c'est collé, donc moins ça sera sec et plus ça partira facilement.
Est-ce qu'ils aiment ça?
Ah bah ils aiment ça, oui. Quand vous prenez une douche, ça doit pas être déplaisant. Donc à mon avis, oui, ça leur va bien.
Quelques minutes, c'est ça? Une dizaine de minutes, vous me disiez, pour que ce soit bien propre?
Oui, oui, là, en moyenne, au salon, ça dure 10 minutes. Une douche sur un charolais, il reste blanc, en général, c'est vite fait.
Ouais, ce sera parfait, en tout cas. Ils seront beaux pour l'arrivée du public tout à l'heure. Tout devrait être prêt d'ici 9h.
Ah, merci beaucoup. Jacques Serret au Salon de l'agriculture, où RTL est présent au pavillon 2-2. Le journal inattendu avec François Xavier de Maison se déroulera justement en direct du stand RTL tout à l'heure à 12h30.
Plongeons maintenant dans le passé avec l'une des énigmes judiciaires qui passionne le pays depuis tout de même 1923.
Ouais, Pierre Kemener, conseiller général du Finistère, disparaît alors qu'il devait négocier une affaire à Paris avec Guillaume Cesnec. Ce dernier est reconnu coupable du meurtre en 1924 et envoyé au bagne de Cayenne, même si le corps de l'élu n'a jamais été retrouvé. 14 demandes de révision ont été effectuées depuis le jugement. Toutes ont été rejetées, mais deux passionnés ne s'avouent pas vaincus. Aujourd'hui, ils vont procéder à des fouilles dans l'ancienne maison familiale Guillaume Chiez.
Oui, depuis près d'un siècle, personne ne s'est jamais rendu dans ce cellier, un cellier muré de la demeure familiale des Seznec. Pourtant, c'est peut-être là que se trouve la clé d'une des plus vieilles affaires criminelles non résolues, le corps du conseiller général Pierre Kemener. C'est en tout cas l'hypothèse à laquelle veulent croire l'ancien avocat de la famille Seznec et un brocanteur passionné d'histoire. Pour en avoir le cœur net, le duo va abattre aujourd'hui ce mur et démarrer une fouille minutieuse du cellier. Pour eux, Guillaume Seznec ne serait pas responsable de la mort de Kemener. C'est son épouse, Marie-Jeanne Seznec, qui l'aurait tué accidentellement. Le conseiller serait venu chez eux ce 25 mai 1923. Il aurait été très entreprenant avec Marie-Jeanne, trop entreprenant même. La jeune femme, pour se défendre, l'aurait frappé à la tête avec un candélabre, un coup fatal et un corps encombrant. Plus tard, Guillaume Seznec aurait aidé son épouse à le cacher dans le cellier de leur demeure. Si des os sont retrouvés aujourd'hui, une 15e procédure en révision du procès Seznec pourrait alors être enclenchée.
Le récit de Guillaume Chiez. Une découverte étonnante pour des douaniers sur une aire d'autoroute de Seine-et-Marne, alors qu'ils contrôlaient un bus au niveau de Ferrières-en-Brie. Ils ont découvert caché dans la soute un tableau d'Edgar Degas intitulé « Les choristes », mais aussi « Les figurants ». L'œuvre, propriété du musée d'Orsay, avait été dérobée en 2009 au musée Cantini de Marseille, où il avait été prêté le temps d'une exposition. Le voleur n'a pas encore été identifié.
En tout cas, aucun passager de l'autobus n'a réclamé le Degas, bien évidemment. Aux Nations Unies, le vote d'une résolution sur une trêve en Syrie a pris du retard, et ce, malgré l'urgence absolue de la situation.
Oui, depuis dimanche dernier, plus de 400 civils, dont une centaine d'enfants, ont péri dans le fief rebelle de Ghouta, aux portes de Damas. Hier encore, les troupes de Bachar al-Assad ont déversé un déluge de bombes sur l'enclave assiégée. Et pendant ce temps, les négociations s'étiraient parmi les membres du Conseil de sécurité. Le texte prévoyant un cessez-le-feu immédiat devrait être finalement soumis au vote aujourd'hui, en fin d'après-midi. Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont demandé au président russe Vladimir Poutine d'approuver cette résolution. Réunis à Bruxelles, les dirigeants européens ont également appuyé la force militaire constituée par 5 pays africains pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Des terroristes toujours actifs, comme le montre le décès mercredi de 2 militaires français de l'opération Barkhane, Pierre-Julien.
La mort des deux spahis du 1er régiment de Valence, tués dans l'explosion d'un engin improvisé déclenché au moment du passage de leur véhicule blindé léger, est la preuve que les groupes armés terroristes sont toujours redoutables au Mali. Et ceci, malgré les coups de boutoir qui leur ont encore été portés dernièrement, plus d'une trentaine de djihadistes neutralisés en une semaine. Il ne faut pas oublier cependant que la superficie de la bande sahélo-saharienne correspond à 10 fois celle de la France. Les 4000 hommes de Barkhane ne peuvent donc à eux seuls tenir toute la région, d'où l'importance de la force G5 Sahel, comme l'a souligné hier à Bruxelles Emmanuel Macron au micro de Guillaume Cordeau.
Notre détermination est donc entière à lutter aux côtés des États membres du Sahel et plus largement de l'Union africaine contre ce terrorisme.
Les bientôt 5000 soldats africains doivent surtout apprendre maintenant à combattre sous commandement unique le général malien Didier Dako, l'actuel chef militaire du G5 Sahel.
Le défi essentiel pour nous, c'est de créer cette synergie d'action entre les différents acteurs. La lutte antiterroriste, c'est l'élément clé dans le mandat attribué à la force conjointe.
Et avant tout, il faudra à vérifier que les 400 millions d'euros et plus de contributions internationales servent bien à équiper en armes et matériel cette nouvelle force africaine.
Pierre Julien, nouvel attentat ce matin en Afghanistan. Un kamikaze s'est fait exploser devant le siège du NDS, les services de renseignement au cœur de Kaboul. Une personne a été tuée et 6 autres blessées, selon le ministère de l'Intérieur.
C'est le début des vacances pour la zone B, la dernière zone académique qui n'était pas en congé. Donc, du coup, sur les routes, la journée est classée en Rhône-Alpes noire.
Ouais, les 3 zones sont en effet en congé ce week-end, et pour ceux qui profitent encore de quelques jours, eh bien une idée de sortie au cinéma avec la petite famille de Daddy Boone sur les écrans à partir de mercredi. Mercredi, sauf pour les chanceux de Calais qui ont eu droit à une avant-première hier soir. 10 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, l'acteur est de retour dans le Nord et son dernier opus s'annonce à nouveau comme un grand succès, Emmanuel Bouin.
Dans le Nord, on aime Danny Boone. Et on aime aussi son dernier film. Michel sort de la salle convaincu.
Une valeur sûre. Bah, l'histoire, elle est bien basée, elle est réelle. À part qu'elle est un peu... c'est caricaturé sur notre accent, mais sinon c'est bien ça. Ça représente nos valeurs du Nord. La famille, l'ambiance, enfin, l'esprit.
Du vrai Danny Boone.
Voilà, du vrai Danny Boone.
Sabine est venue en famille, elle a beaucoup ri... Et ses enfants aussi.
Fabuleux ? C'était génial. Divertissant, autant pour les enfants que... Voilà, faut pas oublier d'où on vient.
C'est la morale du film.
C'est la morale. Voilà. C'est une belle morale.
C'était marrant quand elle avait perdu la mémoire.
Pour Patrick, le film met en valeur toute une région et tout ça sans caricature.
Il y a tout ce qu'il faut.
Oui, de la simplicité qui convient à notre région. Une petite remise à niveau pour montrer qu'on est déjà bien.
Des rires, de l'émotion, les spectateurs du premier jour ont été conquis par la ch'tite famille de Danny Boone.
Le reportage d'Emmanuel Boin pour cette avant-première donc de la ch'tite famille, le film en partenariat avec RTL.
Une pause dans le journal de Yann Boucherie, si vous le voulez bien, avant d'évoquer les sports et le premier succès du 15 de France de rugby depuis presque un an. C'était hier soir face à l'Italie, à Marseille, dans le tournoi Destination.
7h12, suite de RTL Matin, Yann Boucherie, Bernard Poiret, et on passe au sport.
Absolument, le rugby tout d'abord, Yann Boucherie, le 15 de France, a renoué avec la victoire après presque un an de disette, mais sans aucun panache, hier soir à Marseille.
8 test matchs sans succès, dont 7 défaites. La série s'est arrêtée hier soir au Vélodrome avec un succès devant l'Italie 34-17, grâce notamment à 3 essais de Gabriac, Bonneval et Bastaro. L'épisode de la virée nocturne à Édimbourg et l'exclusion de 8 joueurs ont contraint le staff à préparer ce match dans l'urgence. Le sélectionneur Jacques Brunel au micro RTL de Jean-Michel Rascol.
On casse un petit peu la dynamique négative, on sort soulagé par rapport à une semaine qui a été compliquée et puis la pression qu'il y avait autour. Soulagé aussi parce que les joueurs, même si cette semaine a été difficile, ils ont montré d'entrée de match qu'ils avaient la volonté d'imposer leur jeu et d'aller toujours de l'avant.
Peut y avoir match avec les Anglais dans 15 jours ?
Et j'espère qu'il y aura match. On a eu quelques scénarios défavorables. Il faudrait que de temps en temps, ils soient un petit peu favorables. Donc, on espère au moins rivaliser avec eux, quoi. Notre but, il est d'être pas loin des meilleurs, très proche des meilleurs. Donc, l'Angleterre, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, on va essayer de s'en approcher.
Jacques, vous l'avez dit, cette semaine, il n'y a pas d'interdit d'après-match. Ils vont peut-être sortir. Il y a quand même des responsabilités quand on porte le maillot de l'équipe de France.
Il y a des responsabilités. C'est pour ça qu'on va le faire ensemble. Ça, on sortira, mais ensemble.
Ça va vous faire coucher tard, ça.
Peut-être. Je m'en fous.
Et rendez-vous maintenant face à l'Angleterre, donc le 10 mars à Paris, le 15 de la Rose qui se déplace en Écosse à 17h45, tandis que l'Irlande accueille le Pays de Galles à 15h15. Et puis c'est un week-end de doublons avec du top 14. Le leader Montpellier accueille Bordeaux-Bègles à 14h45, alors que le Racing, son dauphin, se déplace à Pau à 20h45.
Le football maintenant, pas de vainqueur hier entre Strasbourg et Montpellier en ouverture de la 27e journée de Ligue 1.
Ouais, triste 0-0 dans le froid à la Méno, suite des rencontres avec Toulouse-Monaco à 17h, puis 5 autres matchs à 20h à vivre dans le multiplex RTL équipe avec Christian Olivier aux manettes. Le sommet de cette 27e journée aura lieu demain soir avec le classique PSG Marseille et les aficionados qui veulent se rendre au Parc des Princes peuvent encore décrocher le fameux sésame, Philippe Sanfourche.
Et la bonne nouvelle, c'est déjà qu'il reste des places, non pas en billetterie classique, mais via la bourse d'échange officielle du Paris Saint-Germain, sur laquelle les 34 000 abonnés du club peuvent revendre leurs billets s'ils sont par exemple loin de Paris en cette période de vacances scolaires, ou bien s'ils veulent réaliser une jolie plus-value. Et c'est probablement pour ça que quelques 2 000 billets sont toujours disponibles à J-1 du match pourtant le plus attendu de la saison en championnat. Comptez 90 euros prix plancher pour un simple siège en quart de virage et jusqu'à 13 600 euros dans le cadre luxueux des loges premium du Parc des Princes. Le classique PSGOM est version Coupe de France cette fois qui se disputera 3 jours plus tard, toujours au Parc des Princes, mercredi prochain. Se négocie lui à des tarifs pour l'heure plus raisonnables. Premier prix aux alentours de 60 euros.
Allez, PSG Marseille à vivre sur RTL dans soir de Ligue 1 exceptionnel demain de 20h à minuit.
En Ligue 2, le leader Reims a souffert pour battre Quevilly 2-1.
Les autres résultats de la 27e journée, victoire de Nîmes-Niort 4-1, d'Ajaccio sur Sochaux 3-2, d'Auxerre devant Valenciennes 2-0, de Clermont à Lens 1-0 et de Châteauroux face au Gazélec Ajaccio 4-1. Enfin 0-0 pour Le Havre-Bourg-en-Bresse et un partout entre Tours et Orléans. Une rencontre précédée d'incidents. 28 personnes ont été interpellées par la police.
Pyeongchang 2018.
Les Jeux Olympiques d'hiver sur RTL.
Deux grosses déceptions tricolores ce matin.
Oui, en ski par équipe et en snowboard, la France a échoué au pied du podium, Sylvain Charlet.
Oui, Sylvain Dufour, le Vosgien de 35 ans qui disputait en Corée ses 3e Jeux Olympiques, s'est incliné donc pour la médaille de bronze. Il a chuté en demi-finale et il a commis une faute à quelques portes de la fin. Il ne remportera donc pas de médaille en snowboard en géant parallèle. Pas de médaille également pour l'équipe de France de ski alpin. C'était lors du tournoi par équipe en slalom. Pinturo, Worley, Noël et Bonne-Munier se sont inclinés dans dans le match pour la troisième place face à la Norvège. C'est la troisième, quatrième place pour le ski français après le Super G et le slalom dans ces JO. Enfin, coup de chapeau, moment d'histoire, coup de chapeau à la Tchèque Esther Ledecká. Oui. Elle a remporté pendant ces Jeux à 22 ans deux médailles dans deux sports différents. Elle avait remporté le Super G en ski alpin la semaine dernière et ce matin, elle était favorite du snowboard de géant parallèle. Elle s'est imposée sans aucun problème. Chapeau Esther Ledecká, seulement 22 ans. Et quand on lui demandait d'expliquer son talent, il disait ceci: je ne sais pas d'où vient ce talent, je descends juste la montagne le plus vite possible.
Merci Sylvain Charlet.
C'est simple, hein?
Et oui, c'est simple. À noter aussi que Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, est arrivée à Pyeongchang pour soutenir les athlètes américains. Elle participera aussi à la cérémonie de clôture.
Merci beaucoup Yann, à tout à l'heure, 8h.